La revue de presse avec vous, Laura Lavenne, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
En ce week-end de Pâques, la presse consacre la vie, le retour à la vie, Laura Lavenne.
La Croix fait la part belle à la renaissance, celle des chrétiens d'Orient. Et nous voilà propulsés à Ninive, en Irak, où tout reste à reconstruire. Ils ont vécu la souffrance et la mort, mais attendent la résurrection de leur communauté, écrit en page 2 Anne-Bénédicte Hoffner. Ils attendent la résurrection de leurs écoles, de leurs maisons, de leurs églises. La vie, aussi dure soit-elle, continue. Voilà le message que nous délivre la presse ce matin.
Aller de l'avant donc, avec un dernier hommage.
Le dernier hommage des journaux à Arnaud Beltrame. Un dernier au revoir à celui qui est mort en échangeant sa vie contre celle d'une otage lors de l'attentat terroriste à Trèbes. Sa vie contre celle de Julie, la caissière du Super U pour qui commence un long travail psychologique. Dans ses colonnes, le journal du dimanche nous donne de ses nouvelles. Julie est bouleversée. Il faut dire que pendant une heure, pistolet sur la nuque, le terroriste s'est servi d'elle comme d'un bouclier humain, écrit le JDD. Julie ne parle pas, ne sort pas. Julie se repose. Un homme s'est sacrifié pour elle. Héros, toute la France n'aura eu que ce mot à la bouche et dans le cœur à propos du sacrifice du colonel. C'est ainsi que s'ouvre la chronique de Bruno Frappa en dernière page de la Croix. La dernière page pour le dernier cri, celui du retour à la vie. Ainsi écrit Bruno Frappa, au moment où l'humanité se cherche en tous sens des raisons de croire et d'espérer, au-delà de la satisfaction de ses petits besoins quotidiens, il est bon, il est sain, il est beau que des héros comme Beltrame nous appellent à réfléchir au sens supérieur de la vie. Dans Les Échos, le philosophe Roger Paul Droit revient sur la définition de la figure du héros. Beltrame est de ces héros humains, trop humains, de ces héros venus de l'anonymat, du peuple, de la vie banale et réelle. Et c'est en cela qu'il nous passionne. Le héros sert d'abord à donner du sens, dit Roger Paul Droit. Le sens, c'est à nouveau la croix qui nous en donne sa version. Cette leçon de mort était une leçon de vie.
Et ce week-end, en dernière page de Libération, là aussi, on retrouve une leçon de vie.
Un vent d'espoir incarné, là aussi, par une inconnue devenue symbole de fraternité. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le visage de Daniel Mérian vous est peut-être familier. Cheveux courts, blancs, perles aux oreilles, autour du cou, rouge à lèvres, orangé. Daniel Mérian, 80 ans, aussi apprêté qu'apaisé, revient sur sa brève apparition télévisée du 16 novembre 2015. Comme des milliers anonyme, écrit Libération, elle vient déposer une rose pour les victimes du Bataclan. Une caméra de BFM est là, elle répond à une interview. 28 secondes suffisent à Daniel et son message d'amour pour devenir viral. Paris est une fête parce que nous sommes une civilisation très ancienne et que nous portons au plus haut nos valeurs, dit Daniel. Alors nous fraterniserons avec les 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant, au nom d'Allah. 28 secondes et un appel au respect qui fait du bien à l'époque et qu'il est si bon d'entendre à nouveau. Comme Arnaud Beltrame, Muriel Mérian est l'une de ces figures positives post-attentat dont le collectif a besoin, poursuit Libération, qui nous livre le dernier combat en date de Muriel. Elle défend désormais les femmes victimes de l'excision.
L'altruisme n'est pas mort et Libé nous le prouve une fois de plus à travers ce reportage.
GPA, deux belles sœurs et un couffin, ou comment Marie-Paul, stérile, est devenue maman. Sa fille, Aurélie, a aujourd'hui 34 ans et sa naissance n'a rien d'anodin. Il y a 34 ans, avant même l'interdiction de la gestation pour autrui, entendez la GPA, Marie-Paul s'est laissée convaincre par Brigitte, la femme de son frère, autrement dit sa belle-sœur, qui lui a gracieusement prêté son ventre. 34 ans après, les deux femmes se souviennent, comme si c'était hier, de cette décision prise autour d'une table, un soir d'hiver ordinaire, un soir qui a scellé leur vie à toutes les trois, un soir qui a redonné vie à Marie-Paul, persuadée que son ventre, confie-t-elle, ne serait jamais qu'un cimetière.
Dans la presse ce matin également, ce week-end, 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, le rêve est ravivé.
Le rêve inachevé, titre Le Monde, quand le JDD s'invite dans le bastion de l'élite noire américaine, dans l'état du Maryland, un comté passé de l'esclavage à la Mecque de l'élite noire, des champs de tabac aux jolies maisons avec piscine. La journaliste fait office de guide dans cette bulle où les noirs sont majoritaires, des avocats, des docteurs, des juges, bref, on pourrait être dans n'importe quelle banlieue blanche, conclut-elle. Sauf qu'ici, les habitants se souviennent de la grande marche de Martin Luther King en 63. J'étais debout à quelques mètres de lui quand il a parlé de son rêve. Un homme m'a insulté. Après, glisse Jane, une habitante. Le racisme ressurgit alors, tout comme le passé, trop lourd, passé, pas si lointain. Ces habitants se souviennent du travail au champ. Une mère qui a donné sa vie aux plantations en Caroline du Nord. Le souvenir d'une vie violente, le présent d'une nouvelle vie devenue douce, devenue banale. Normal pour ces habitants, ceux-là et quelques autres seulement. L'élite noire noir est passé du rêve à la normalité. Et dans cette banalité, il s'interroge avec l'élection de Donald Trump. Le rêve, leur rêve, s'est-il fracassé en vol?
Une résurrection médiatique dans la presse de ce week-end, celle de Françoise Hardy.
Télérama, Le Parisien, Le Figaro, quand Françoise Hardy décide de revenir à la lumière, on ne voit plus qu'elle. La belle résurrection, titre Le Parisien. Pour Le Figaro, ce sera le souvenir des belles choses, décidément à part, tranche Télérama. À 74 ans, Françoise Hardy n'a pas changé, poursuit le magazine. Elle est déjà décalée à l'heure de ses débuts, avec ses airs mélancoliques, sa voix feutrée, à milieu des refrains sautillants des yéyés, nous dit Valérie Lehoux. Et dire qu'on a failli la perdre, Télérama revient sur la maladie qui a failli l'emporter, qui a failli la faire taire à jamais. Au seuil de la mort, Françoise Hardy renaît. Il y a 3 ans, elle se réveille du coma. On lui annonce 12 chimios. Elle pensait ne jamais refaire de disque. Pas la force, pas l'envie, confie-t-elle. Et pourtant, la chanteuse raconte comment, au hasard d'une balade virtuelle sur YouTube, elle s'éprend d'amour pour une chanson finlandaise, veut la réadapter en français. Elle raconte comment la musique l'a sauvée et plus encore, avec toute son élégance, avec tout son franc-parler.
Françoise Hardy dans le Femina, on ne se rappelle que des belles choses, ce qui évoque le thème de ce matin sur l'espérance. On va en parler dans un instant. Merci Laura Lavaine pour cette revue de presse.